Il y a 2 mois encore, allongé sur mon lit le soir dans la ferme isolée en Bretagne qui me sert de foyer, à écouter les meuglements des vaches et les chamailleries des poules, j'occultais résolument les voix accusatrices qui tentaient parfois de venir troubler mon sommeil. J'étais trop jeune, protestais-je, j'étais trop innocent, trop naïf, trop subalterne. Si vous cherchez des têtes à couper, disais-je à ces voix, allez donc voir ces grands maîtres de la désinformation que furent George Smiley et son supérieur, Contrôle. C'est leur fourberie raffinée, insistais-je. C'est leur intellect érudit et pervers, pas le mien, qui ont accouché du triomphe et du chemin de croix que fut Windfall. Le service auquel j'ai consacré les plus belles années de ma vie m'ayant demandé des comptes, c'est seulement aujourd'hui, dans mon vieil âge et malgré ma stupéfaction, que je me sens contraint de coucher sur le papier, quel qu'en soit le coût, les ombres et les lumières de mon implication dans cette affaire. Comment j'en suis arrivé à être recruté dans le Secret Intelligence Service, le cirque, comme nous autres jeunes Turcs l'appelions, en ces temps censément glorieux où nous étions installés, non pas dans une grotesque forteresse près de la Tamise, mais dans un prétentieux immeuble victorien de briques rouges qui épousait la courbe de Cambridge Circus, reste pour moi un mystère, au même titre que les circonstances de ma naissance, et ce d'autant plus que les deux événements sont indissociables. Mon père, que j'ai à peine connu, était, à en croire ma mère, le fils prodigue d'une riche famille anglo-française des Midlands. Un homme aux appétits immodérés qui dilapidait son héritage, mais que rachetait son amour pour la France. À l'été 1930, il prenait les eaux à Saint-Malo, où il fréquentait casinos et maisons closes, et globalement vivait sur un grand pied. Alors âgée de 20 ans, ma mère, unique descendante d'une longue lignée de paysans bretons, se trouvait dans cette même ville pour servir de demoiselle d'honneur à la fille d'un riche marchand de bestiaux. C'est du moins ce qu'elle affirme. Mais il s'agit là d'une source non recoupée, et comme elle ne répugnait pas à enjoliver les faits quand ils n'allaient pas dans son sens, je ne serais pas surpris qu'elle fût venue en ville pour des motifs moins dignes. Elle raconte s'être éclipsée après la cérémonie avec une autre demoiselle d'honneur. Légèrement pompette après une ou deux coupes de champagne, elles quittèrent la réception dans leur tenue de noces pour aller bagnauder sur la promenade, fort fréquentée ce soir-là, où mon père déambulait lui aussi en quête d'une rencontre. Ma mère était jolie et frivole, son amie un peu moins. Une idylle éclair s'ensuivit, dont la précipitation effaroucha ma mère de façon bien compréhensible. Mais un nouveau mariage fut bientôt organisé, et j'en fus le fruit. Mon père, semble-t-il, n'était pas fait pour la vie matrimoniale et, même dans les premières années, réussit à être plus souvent absent que présent. C'est là que l'histoire prend un tour héroïque. Comme nous le savons, la guerre change tout, et elle changea mon père du jour au lendemain. À peine avait-elle été déclarée qu'il tambourinait à toutes les portes du ministère de la guerre, se portant volontaire auprès de qui voudrait bien de lui. Sa mission, à en croire ma mère, consistait à sauver la France à lui tout seul. Consistait-elle aussi à fuir ses obligations familiales? C'est là un blasphème que je n'eus jamais le droit de prononcer en présence de ma mère. Les Anglais venaient de former le Special Operations Executive, SOE, auquel Winston Churchill en personne avait notoirement confié la tâche de mettre l'Europe à feu et à sang. Les villes côtières du sud-ouest de la Bretagne étaient des foyers d'activité des sous-marins allemands, et notre bonne ville de l'Orient, ancienne base navale française, était le foyer le plus chaud entre tous. Parachuté 5 fois sur la lande bretonne, mon père rejoignit tous les groupes de résistants qu'il put trouver, prit sa part dans les sabotages et connut une mort atroce dans la prison de Rennes aux mains de la Gestapo, laissant derrière lui un modèle de dévouement altruiste impossible à égaler pour un fils. Son autre legs fut une fois mal placé dans le système anglais des public schools, qui, en dépit de son propre passage catastrophique dans l'une de ses écoles privées, me condamna au même destin. Les toutes premières années de ma vie furent paradisiaques. Ma mère cuisinait en papotant, mon grand-père